Les millésimes d'Europe 1.
Elena Noguera.
On avance dans l'été puisque nous sommes déjà le 22 juillet. Mais on va remonter le temps. Vous connaissez le principe, chaque jour on revisite une année. Alors hier, nous avons revisité l'année 1985 et c'est les millésimes d'Europe 1. Aujourd'hui, nous allons croiser l'ennemi public numéro 1, un petit déjeuner en Amérique. Notre année du jour est aussi une année charnière, une année qui a posé les jalons pas toujours rassurants de notre monde d'aujourd'hui. Dans les grands rôles de cette année, on compte également Margaret Thatcher, Francis Ford Coppola ou Leo. Ça fait une belle équipe, non? Nous allons aujourd'hui en 1979. Bienvenue dans les millésimes d'Europe 1. Je suis Elena Noguera et vous le savez maintenant, tout l'été, je vous emmène chaque jour entre 15h et 16h à bord de mon bolide et à travers le temps, via les archives d'Europe 1. Vous savez qu'on conserve tout ici? Allez, c'est parti.
Europe 1, les millésimes.
Elena Noguera.
Je suis mort les armes à la main. Même si peut-être, mais ça je n'en sais rien, je n'ai pas eu le temps de m'en servir. Parce que même si les policiers m'ont tué avant que j'aie le temps de mettre la main sur mon revolver, il faut te dire une chose. Si j'avais eu le temps de mettre la main dessus, je m'en serais servi. Peut-être que j'ai mis la main dessus et que je m'en suis servi. Puisque cette cassette est prémonitoire, je ne peux pas quand même envisager ce qui m'est arrivé ou ce qui m'arrivera. La seule chose que je sais, c'est que si tu écoutes cette cassette, c'est que je suis dans une cellule d'où on ne s'évade pas.
En 1979, Europe 1 n'avait pas diffusé cet incroyable document, mais il était conservé, bien sûr. C'était Jacques Mesrine s'adressant à sa compagne. Sur une cassette, il a enregistré un message visionnaire où il prévoyait son assassinat par des policiers. À l'époque, Jacques Mesrine est l'ennemi public numéro 1. Il occupe depuis un certain temps les pages des faits divers pour vol, enlèvement, braquage ou évasion. Le 2 novembre 1979, à Paris, porte de Clignancourt, il est tué par les policiers après plus d'un an de cavale. Voici les faits. À 15h15, Mesrine est au volant de sa BMW avec sa compagne Sylvia Jean-Jacot. Le couple est soudainement encerclé par les hommes de la brigade de recherche et d'intervention qui le tiennent en tenaille. Des tireurs sont dissimulés dans un camion. Mesrine fait un geste qui laisse supposer aux policiers qu'il va se saisir d'une arme. Il tire. On retrouvera donc 18 balles dans le corps de Mesrine. Sa compagne, quant à elle, perdra un œil dans la fusillade. Les opérations avaient été pilotées par le commissaire Maurice Bouvier, que l'on avait entendu sur Europe 1 ce jour-là.
On a presque à certains moments considéré Mesrine comme une sorte de héros. Il a voulu se créer un personnage. Et je dois dire qu'il y est, il y est parvenu. En réalité, Mesrine, c'est un gangster, c'est un tueur.
La mort de Mesrine est un premier cas de remise en cause de la légitime défense invoquée par la police car celle-ci aurait ouvert le feu sans sommation. Alors, les policiers ont-ils agi en état de légitime défense ou non? Ont-ils fait des sommations? Précisons que les policiers n'ont pas le droit de tirer s'ils ne sont pas en état de légitime défense. La famille et le fils de Mesrine contesteront la thèse de la légitime défense. Mais selon Jean-Louis Fiamenghi, le flic qui a dirigé le raid, c'était bien de la légitime défense. « Nous avons réagi en état de légitime défense dans une affaire de banditisme », a-t-il assuré dans un ouvrage publié il y a 5 ans. En écoutant les témoignages recueillis à l'époque par Europe 1, il y avait celui de cet homme anonyme.
J'ai vu une voiture grise qui me dépasse à côté. Et j'ai vu une dame avec une perruque. Et puis moi, j'ai essayé de tourner à droite. Et lui, il voulait tourner à gauche. Et à ce moment-là, j'ai vu un gros camion bleu qui me dépasse. Et puis il s'arrête devant la voiture de la BMW. Derrière le camion, je vois 4 personnes qui sortent avec la mitrailleuse à la main. Une personne qui tirait à droite sur le conducteur et puis j'ai vu la conductrice. Elle a ouvert la porte et elle essayait de courir.
Et est-ce que le conducteur, est-ce que Mesrine a essayé de riposter? Comment ça s'est
non,
passé?
Non, et j'ai vu un moment qu'il a essayé de penser en avant pour essayer de prendre quelque chose. Mais quand j'approchais, j'ai vu qu'il avait une grenade à quadriller. Il y en avait 2 là-dedans.
Alors, Jacques Mesrine, voulait-il oui ou non riposter? Ben, on le saura jamais. En tout cas, Jean-Louis Fiamenghi, qui serait l'auteur du coup de feu fatal que Mesrine aurait reçu à la tête, a déclaré depuis qu'il ne regrettait pas son geste. Je vous propose, pour conclure, d'écouter ce témoignage qu'avait recueilli Gérard Fusy pour Europe 1. C'est celui de l'un des commissaires qui était chargé de traquer l'ennemi public numéro 1. Le soir de la mort de Mesrine, il confiait pourtant qu'il aurait préféré l'avoir vivant.
C'était un adversaire de valeur. Et pour un policier, c'était tout à fait normal qu'on s'attelle à l'arrêter.
Pour votre service, pour les gens qui travaillent avec vous, la fin d'une affaire comme celle-là, ça représente la fin d'un certain travail?
Ça représente la fin d'un certain cauchemar, parce que depuis 4 mois, j'entends parler tous les jours de Mesrine et je commence à en avoir marre. Hein.
Vous auriez préféré le prendre vivant, Mérine?
Certainement. J'aurais aimé discuter avec lui. Hein. Je ne serais jugé pas de la mort d'un adversaire. Hein. Ça demeure un homme quand même. Et franchement, je ne vous dirais pas que j'ai de la peine, mais enfin... C'est une émotion, c'est certain.
L'émotion d'un commissaire après la mort de Mesrine, c'était le 3 novembre 1979 sur Europe 1. Après cette ouverture violente en forme de polar, on aurait besoin de douceur pour continuer notre plongée en 1979. Et des douceurs, il y en a eu quelques-unes, notamment avec ce groupe italien Mattia Bazar, qui chantait cette année-là « Solo tu ». Dans un instant, suite de notre film sur l'année 1979 avec de nouveaux événements marquants de l'année. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez mangé un hamburger? C'était peut-être cette année-là. Allez, à tout de suite.
Europe 1, les millésimes.
Elena Noguera.
cap sur l'année 1979, aujourd'hui dans les millésimes d'Europe 1. Vous connaissez le principe, tous les après-midi de l'été, on se faufile dans les interstices du temps. Jusqu'à 16h, on revit certains événements forts ou parfois même oubliés de l'année 1979. Qui se souvient, par exemple, que le pont des Arts, près du Louvre à Paris, s'était écroulé sur une cinquantaine de mètres durant l'automne?
Décidément, le pont des Arts joue de malchance, déjà sérieusement endommagé il y a 9 ans par une péniche, fermé aux piétons par mesure de sécurité. Il a de nouveau été heurté par un convoi de péniches hier soir. Cette fois, c'est sérieux, le tablier du pont des Arts s'est effondré et une arche est fendue.
Non loin de là, quasiment au même moment, le maire de Paris, Jacques Chirac, inaugurait le Forum des Halles. Il n'y avait pas encore de McDonald's au Forum des Halles. En 1979, il n'y en a d'ailleurs que très peu en France. On se demande même quel a été le premier McDo de France. En juin 1972, on se souvient qu'un McDo ouvre à Créteil. Mais il s'agit en fait d'une franchise. Et aujourd'hui, la direction de McDonald's ne retient pas cette date comme étant la date de naissance du premier McDo en France. Elle retient plutôt la date du 17 septembre 1979, date à laquelle le premier temple du Big Mac a ouvert ses portes dans le pays, et c'était à Strasbourg.
C'est pas terrible. Et vous venez quand même?
Bah oui, c'est économique.
Le Big Mac, ce gros sandwich américain à la viande, en passe d'envahir le monde comme le Coca-Cola, c'est le fleuron du fast-food, en français nourriture rapide. 100 secondes pour faire cuire une tranche de steak haché congelé. 55 secondes pour toaster et saucer, une sonnerie rythmant chaque opération. Quelques gestes pour la salade, les oignons, les cornichons, le fromage. En 2 minutes exactement, le client est servi.
Et pendant que nous découvrions le Big Mac, symbole ultime de la restauration rapide, formatée et industrielle, le monde était en train de changer. Selon plusieurs historiens, l'année 1979 est celle des événements qui ont jeté les bases de notre monde actuel. C'est en 1979, en quelque sorte, que sont nées nos années 2000. Mais pourquoi ? La première raison est l'arrivée de l'ayatollah Khomeini au pouvoir en Iran. En février 1979, après avoir renversé le Shah, il proclame la République islamique.
C'est dans une salle de patronage qu'est né le premier gouvernement de ce qui sera peut-être la République islamique. L'ayatollah Khomeini a en effet proclamé hier ce gouvernement dans son quartier général de Téhéran, une école désaffectée où s'étaient pressés des journalistes du monde entier. Alors que le palais du Shah est vide, alors que l'Iran est paralysé par 3 mois de grève, l'ayatollah Khomeini a lancé ce défi sans précédent au gouvernement légal. Il a demandé aux fonctionnaires, au peuple, aux militaires de suivre le seul gouvernement islamique, c'est-à-dire ce gouvernement fantôme qui siégera dans l'école devenue centre de la contestation iranienne.
Cette prise de pouvoir par un religieux musulman est alors totalement inattendue et très mal vue pour tout l'Occident. C'est à ce moment que les rapports entre les États-Unis et les pays arabes vont commencer à se détériorer. Autre conséquence et non des moindres, la révolution iranienne provoque une diminution de la production mondiale de pétrole. Résultat, les prix flambent une fois de plus. Le 28 mars 1979, Yvan Levaille recevait le ministre de l'Industrie André Giraud dans la matinale d'Europe 1.
Je disais que pour vous, pour le gouvernement, la facture allait être gonflée, là, dans l'état présent, de 6 milliards par rapport à l'année dernière, et que pour nous, le plein allait coûter en plus le prix d'un paquet de cigarettes. Alors ça permet de tenir, mais ça permet de tenir jusque à quand ?
Jusque à quand ? Et oui, c'est ça le problème des millésimes. Tu fais une faute de liaison en 79 et on te les ressort encore en 2021. Allez, on écoute la réponse.
Alors, ceci étant, je ne veux pas cacher aux Français que la situation n'est pas rassurante pour l'avenir. Et effectivement, nous devons être la considérer avec beaucoup de sérieux. Nous devons en particulier nous attacher à économiser l'énergie. C'est un souci fondamental du gouvernement. Nous avons mis en place des mesures très importantes dans ce sens. Nous allons dépenser 600 millions de francs rien que pour favoriser les économies d'énergie. Nous allons cet été en particulier faire appel au civisme des Français auquel on peut demander beaucoup plus que ce que l'on ne croit généralement. C'est ce que nous pouvons faire. Nous développons notre programme d'énergie nucléaire. Bref, nous devons absolument considérer que l'avenir est redoutable et que nous devons nous préparer à y faire face.
1979 et 2021, c'est kiff kiff bourricot en fait, parce que ces propos auraient pu être tenus ce matin.
Europe 1, les millésimes.
Elena Noguera.
Aujourd'hui, entre 15h et 16h, nous sommes en 1979 sur Europe 1. Hier, nous étions en 1985, en plein dans les années Mitterrand. Aujourd'hui, ce sont les années Giscard et Thatcher. Lorsqu'elle accède au poste de Premier ministre de Grande-Bretagne en mars 1979, on appelle déjà Margaret Thatcher la Dame de Fer. À 53 ans, elle arrive à Downing Street, précédée d'une solide réputation. On dit d'elle qu'elle pense avoir toujours raison, qu'elle ne change jamais d'avis et qu'elle a une volonté de faire. Son programme, en 1979, pour répondre au deuxième choc pétrolier, eh bien, Europe 1 le détaillait le 2 mai 1979.
Maggie préconise la fin de la politique des salaires, le retour à la libre négociation, la limitation des piquets de grève, le vote des grèves à bulletin secret, l'interdiction du monopole syndical d'embauche et enfin la suppression des prestations sociales pour les familles des grévistes. Là, c'est peut-être un peu trop, Monsieur Callaghan a beau jeu de s'indigner. Comment vous supprimez des allocations familiales à un gréviste, on ne les supprime pas à la famille d'un condamné. Le leader travailliste estime que le libéralisme à tout craint de Mme Thatcher va déchaîner les syndicats. Hier soir, son dernier message télévisé annonçait une Angleterre aux mains des conservateurs en proie aux grèves et à l'inflation. Le pays, dit Callaghan, sera rongé comme par un cancer. Les syndicalistes sont plus crus. Leur leader, David Bassnett, lance « Madame Thatcher veut émasculer les syndicats ».
C'est marrant comme ils parlent les garçons. Ça se dirait plus aujourd'hui « Madame Thatcher a émasculé les syndicats ». Bon, en tout cas, de nombreux Anglais se sont mis à littéralement détester la Miss Maggie. 7 ans plus tard, Renaud, d'ailleurs, lui dédiera une sacrée chanson.
Car aucune femme sur la planète sera jamais plus con que son frère, ni plus fière, ni plus malhonnête, à part peut-être Madame Thatcher.
Alors, me dit-on avec l'œil en coulisses, vous allez nous en parler de cette affaire de diamant.
Pendant que Margaret Thatcher détaille son programme en Grande-Bretagne, en France, une affaire enflamme la presse et Europe 1. C'est l'affaire des diamants qui fait suite aux révélations du canard enchaîné en octobre 1979. En résumé, Bokassa et Valéry Giscard d'Estaing se connaissent déjà depuis des années. En 1977, Bokassa prend le pouvoir à vie, sans que la France ne s'y oppose. Mais 2 ans plus tard, alors que Bokassa semble de moins en moins se soucier des droits de l'homme, la France le renverse. L'opération voulue par Giscard est menée par les services secrets français. C'est dans ce contexte qu'éclate l'affaire des diamants. Le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, ainsi que sa famille, auraient reçu des diamants de l'ancien empereur de Centrafrique, Jean Bédel Bokassa. Le 20 octobre 1979, Claude Imbert fait cet édito politique dans la matinale d'Europe 1.
Le canard enchaîné, dont la curiosité est en l'occurrence légitime, affirme que M. Giscard d'Estaing, du temps déjà où il était ministre des Finances et quelques personnes de sa famille d'autre part, aurait reçu à plusieurs reprises des cadeaux sous forme de plaquettes de diamants de la part de Bokassa. Bon, les documents que produit l'hebdomadaire ne prouvent pas formellement que ces plaquettes furent remises à M. Giscard d'Estaing et encore moins à ses parents. Mais tandis que les parents du président démentent formellement avoir reçu de tels présents et intentent un procès en diffamation, l'Élysée, lui, paraît admettre le fait, dans un communiqué cauteleux, qui ne conteste pas ce qui a été reçu, mais seulement la valeur et le caractère de ce qui a été accepté. Nous voilà donc devant la question qui titille. Un chef d'État ou un ministre peut-il ou non recevoir un cadeau sans en être compromis?
Et comme les diamants sont éternels, Giscard traîne cette affaire jusqu'à la présidentielle de 1981. En pleine campagne, il affirme avoir vendu les diamants et avoir distribué l'argent à des œuvres caritatives. Cette affaire lui aurait-elle coûté les présidentielles? 1979, c'est aussi le Banana Split de Lio.
Mm-hmm.
Elle a 17 ans et chante une chanson coquine écrite par Jay Alansky et Jacques Duval et produite par Marc Moulin. Cette chanson devient vite le tube de la fin de l'année 79. En France, le single se vend à 700 000 exemplaires et en Europe à 10 millions d'exemplaires. Comme pour d'autres, au départ, la maison de disques n'y croyait pas. Mais bon, elle a accepté de sortir ce disque car, en fait, elle devait produire des artistes belges en urgence. Vous savez, pour les trucs un peu fiscaux. Elles n'ont pas toujours le nez fin, les maisons de disques.
Elena Noguera.
Dans un instant, suite de notre voyage en 1979 avec les films de l'année et un festival de Cannes indécis cette année-là. Allez, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, les millésimes.
Elena Noguera.
C'était il y a 42 ans et c'était hier pour certains. Ou c'était il y a une éternité pour d'autres. Et si vous n'étiez pas né, vous connaissez peut-être certains des grands films de l'année 1979. On va en parler dans un instant dans les millésimes d'Europe 1, consacrés aujourd'hui à l'année 1979. Mais avant cela, voici l'un des bruits de l'année 1979.
Cette sirène, ce sont les ultimes adieux du paquebot France, ou du Nord-Ouest si vous préférez, à son port d'attache. L'adieu émouvant du grand navire au milieu de Havrais, rassemblé sur les digues, sur la plage, ou même au sommet du cap de la Hève pour le suivre une dernière fois du regard jusqu'à la ligne d'horizon. Tiré par la seule Abeille Provence, le France fait désormais route sur Brême où il est attendu dans 48 heures. C'est à Brême en effet qu'il doit être transformé par les chantiers APAG pour devenir navire de croisière en mer des Caraïbes. Son nouvel armateur, le Norvégien Klosters, qui a acheté le paquebot pour 80 millions de francs, va consacrer à cette importante rénovation un budget de 150 millions de francs. Le Havre, Pierre-Henri Marin, Europe 1.
Après 1979, le gigantesque paquebot France est retapé plusieurs fois et fait des croisières en mer des Caraïbes jusqu'à être finalement revendu à un ferrailleur et démantelé en Inde en 2009. On a ensuite revendu aux enchères quelques pièces du paquebot qui aujourd'hui n'est plus qu'un souvenir. En 1979, alors que les 70s se terminent, des critiques de cinéma du monde entier sont appelées à répondre à cette question. Quel a été le meilleur film de la décennie? L'une des réponses les plus courantes est un film qui vient tout juste de sortir, Manhattan de Woody Allen. Woody Allen lui-même n'aime pourtant pas beaucoup ce film en noir et blanc qu'accompagne la splendide musique de Gershwin, Rhapsody in Blue.
Ok, well tell me why you get a divorce?
Why? I got a divorce because my ex-wife left me for another woman. Okay?
Really?
Mm-hmm.
God, that must have been really demoralizing.
I don't know. I thought I took it rather well under the circumstances.
Too-wee.
I tried to run them both over with a car.
Isaac Davis, alias Woody Allen, est partagé entre son ex-femme qu'il a quittée pour une autre femme, sa nouvelle et jeune copine Tracy, 18 ans, et Mary, une intellectuelle qu'il rencontre au début du film et dont il tombe peu à peu amoureux. Tant pis pour Tracy. En 1979, nos névroses, nos désirs, nos inconstances sentimentales et professionnelles commencent à rendre nos existences bien compliquées et Woody Allen nous en fait un bien savoureux tableau dans ce film qui est aussi un magnifique portrait de New York mais surtout le point de vue d'un homme de 1979. Au même moment, sort en salle...
Bonjour. Excusez-moi, je suis un peu en retard parce que j'ai été retenu à Paris par une copine, une chieuse, enfin une histoire.
Quel est votre nom?
Jean-Claude, et vous? C'est Duce, avec un D comme Duce.
Voilà, c'est la chambre 14. Je vous accompagne.
Bah oui, mais moi je suis très embêté parce que j'avais demandé expressément une chambre double. Parce que j'aurais peut-être une copine éventuellement qui viendrait de Paris, enfin si ça se trouve.
Ah, je suis désolée monsieur, mais on est un peu surchargé en ce moment. Mais enfin, si vous me dites exactement à quelle date votre dame arrive, on pourra s'arranger.
Ah bah oui, mais ça, j'en sais rien, parce que ça peut être ce soir, ça peut être demain, ou... Il n'y a pas qu'elle. Vous, par exemple, qu'est-ce que vous faites ce soir?
Ben oui, vous avez reconnu, les bronzés font du ski. C'est la suite des bronzés. Le film sort sur les écrans le 22 novembre 1979. Vous avez de la pâte, vous avez du suc.
I love you.
Musique de Pierre Bachelet et interprétation de Jean-Denis Pérez. C'est Just Because of You sur Europe 1. Oui, n'oublions pas de citer Jean-Denis Pérez qui ne figure pas au générique et qui s'est battu pendant près de 20 ans. L'affaire est allée jusque devant les tribunaux pour prouver que c'était bien lui l'interprète. Sa prestation n'est pas étrangère au succès du film qui a attiré 1,5 million de spectateurs en 1979.
Elena Noguera.
Ce n'est toutefois pas le plus grand succès de l'année. Le numéro 1 au box-office en 1979, c'est « Le gendarme et les extraterrestres ». Mais on va plutôt s'attarder sur le numéro 2 dans un instant. Un film qui avait obtenu la Palme d'Or. On se retrouve tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, les millésimes.
Elena Noguera.
Un jour, une année, vous écoutez les millésimes d'Europe 1 et nous sommes en 1979 aujourd'hui. Et ce, jusque 16h, je suis Elena Noguera et je suis votre guide. Et là, on est en plein dans l'actu cinéma de l'époque. Vous savez peut-être qu'en 1979, il y a deux films qui se sont partagés la Palme d'Or à Cannes. Deux films qui ont fini ex aequo dans le cœur du jury. Il y avait Apocalypse Now de Francis Ford Coppola et Le Tambour de Volker Schlondorf. On a retrouvé cet entretien que Françoise Sagan, alors présidente du jury cette année-là, avait donné à Jean-Claude Brialy quelques jours avant le début du festival. Et les auditeurs d'Europe 1 ont peut-être compris ce jour-là qu'il y aurait plusieurs vainqueurs. Écoutez.
Et alors, est-ce que tu vas être obligé de trancher? Tu vas avoir beaucoup d'autorité? Tu vas de l'influence sur les autres membres du jury? Tu ne sais pas ce que tu vas faire?
Parce que je ne suis pas capable de trancher quoi que ce soit et d'avoir d'autorité sur quoi que ce soit. Je n'ai même pas su dresser mon chien quand je l'appelle, il s'en va en courant. Je n'ai aucune raison que je puisse dresser 10 jurés.
Mais alors tout le monde va finir ex aequo alors?
Ils vont sûrement trancher entre eux, si je peux dire. Et puis la majorité se décide d'elle-même.
Françoise Sagan est effrayée par l'idée d'avoir à trancher. Et cette année-là, fait unique, deux films se partagent la Palme d'Or. Comment on fait alors, Pierre Lescure?
Nous vous l'avons dit depuis plus de 36 heures, il était évident que le jury était partagé, voire déchiré, et que cette double Palme d'Or signifie que l'on n'a pas voulu trancher dans le vif, mais qu'au contraire, on a voulu un peu trancher la poire en deux. C'est aussi votre avis, Jean-Claude Brialy?
Oui, enfin, c'est un petit peu un accord. On est très content d'ailleurs parce que ce sont deux films fantastiques, mais il est bien certain que pour beaucoup, c'est tout de même Le Tambour qui a la Palme d'Or, tout en reconnaissant au film de Francis Coppola d'être un très grand film et de féliciter Coppola pour son œuvre, parce que c'est un grand, très grand metteur en scène.
Tout le monde a d'ailleurs noté que dans l'ordre alphabétique, on a donné Le Tambour d'abord, alors que s'ils étaient véritablement ex aequo, l'ordre alphabétique aurait voulu que Apocalypse Now passe avant.
Oui, mais enfin, ils ont tous les deux la Palme d'Or, donc c'est très bien.
Les deux films ont eu la Palme d'Or, mais il y en a un qui l'aurait plus que l'autre? Ouais, bon. D'accord. En tout cas, vous avez reconnu la voix de Pierre Lescure. Il était alors rédacteur en chef adjoint à Europe 1. Et qui est aujourd'hui le président du Festival de Cannes? Eh ben ouais, c'est Pierre Lescure, le même. Et vous, vous préférez lequel? Le tambour de Volker Schlondorf?
C'était une fois un tambour à qui le monde des adultes ne plaisait pas.
C'est l'histoire terrible d'un petit garçon nommé Oscar et qui, pendant l'Allemagne nazie, refuse de grandir et de se séparer du tambour qu'il a reçu le jour de ses 3 ans. Pour cesser de grandir, il se jette volontairement dans les escaliers. Ah, effrayant! Peut-être que vous préférez Apocalypse Now, le film de guerre de référence. Sur Europe 1, le 20 mai 1979, on avait pu entendre la réaction du conseiller en communication politique, Pierre Salinger.
C'est un film pas du tout comme les autres. Si c'est un film d'une puissance énorme, un coup de poing dans l'estomac, un film comme on n'a jamais vu à mon avis, parce que c'est pas un film sur une guerre, c'est la guerre, avec toute sa stupidité, avec toute son horreur.
Vous saviez que Lino Ventura aurait dû jouer dans le film ? Coppola avait un rôle pour lui, mais le tournage a eu lieu aux Philippines. Et Lino n'aimait pas prendre l'avion. Il ne prenait que le train. Pas évident d'aller aux Philippines en train. L'actualité ciné de l'année 1979 est aussi dominée par une bien triste nouvelle.
Dépressif depuis plusieurs semaines, incapable de retrouver goût à la vie, Gene Seberg s'est probablement suicidé.
Resté sans nouvelles pendant 9 jours, son mari, Ahmed Hasni, qu'elle avait épousé il y a 1 an et demi en Algérie, nous confiait hier matin qu'il était persuadé de la mort de sa femme. Pour lui, elle avait certainement mis fin à ses jours, tant était profonde sa dépression. La rédaction de ses mémoires qu'elle avait entreprise ces derniers temps l'avait plongée dans une torpeur morbide. Obsédée par un passé dont elle ne retenait que les échecs sentimentaux et professionnels, elle fit une première tentative de suicide il y a 15 jours, en se jetant sous les rails du métro Maine-Montparnasse. Elle n'y trouva pas la mort, mais sa décision était prise. Fini la vie chaotique et les tranquillisants, fini les fugues et les films alimentaires comme celui qu'elle était en train de tourner par fidélité à Raoul Coutard et à Georges de Beauregard, l'opérateur et le producteur d'À bout de souffle, le film qui fit sa célébrité en France. Le soir du 30 août, elle quitta son appartement en pleine nuit. Pour seul bagage, elle emporta une couverture, une bouteille d'eau et les barbituriques que lui avait prescrit son médecin. Elle prit sa voiture garée rue de Longchamp, qu'elle conduisit avec difficulté car elle n'a pas emporté ses lunettes de vue. Après quelques centaines de mètres, elle se gare rue du Général à Père, à proximité de la Porte Dauphine, et là, recroquevillée dans sa couverture, elle s'allonge sur le plancher à l'arrière du véhicule et se donne la mort. Jean Seberg n'a laissé à son mari aucun message, aucune lettre pour expliquer son geste. Cependant, la police a ouvert une enquête pour confirmer définitivement la thèse du suicide.
Pour Europe 1, Guillaume Durand avait rencontré Ahmed Hasni, son dernier mari, dont le témoignage est bouleversant. Selon lui, c'est la vision du film « Claire de femme » réalisé par Costa Gavras et adapté du livre du même nom de Romain Gary, son ancien mari, qui l'a fait chavirer.
Mais comment expliquez-vous finalement ce renoncement à la vie que vous aviez prévu ?
Le soir, la veille, avant qu'elle se suicide, c'était le film qu'on a vu de Romain Gary, le film « Claire de femme », le film avec Romy Schneider. C'est ça qui l'a vraiment bouleversé, c'est-à-dire c'est ça qui l'a... Elle ne m'avait pas montré, mais j'ai senti quand même.
Et qu'est-ce qui, à votre avis, l'a bouleversé dans ce film ?
Parce que l'histoire, elle était presque sur elle, ce qu'il avait écrit Romain Gary. C'est presque leur histoire, plutôt.
Claire de femme, l'histoire d'une séparation. Romain Gary se donnera lui aussi la mort 1 an plus tard. Et dans la lettre qu'il écrit pour expliquer son geste, il mentionnera « aucun rapport avec Jean Seberg ».
Est-ce que Patricia est avec vous ?
Yes, she's over there.
Merci.
New York Herald Tribune !
Est-ce que tu m'accompagnes, Aaron ? Oui, c'est idiot, je t'aime. Je voulais te revoir pour savoir si te revoir me ferait plaisir.
Vous venez d'où ? Monte Carlo ?
Non, de Marseille. Je suis resté samedi et dimanche à Monte Carlo, fallait que je voie un type. Lundi, j'ai essayé de t'appeler de Marseille.
Lundi et dimanche, t'es pas à Paris. New York Herald Tribune !
Un très bel extrait d'À bout de souffle de Jean-Luc Godard avec Jean Seberg. Vous savez, c'est quand elle vend les journaux sur les Champs-Élysées et qu'elle flirte avec le tendre voyou Jean-Paul Belmondo. L'actualité musicale en 1979 est plutôt chargée. Vous vous souvenez de ce morceau écrit au milieu des années 90 par Billy Corgan, chanteur et guitariste des Smashing Pumpkins, qui s'appelait 1979 ? Corgan avait 12 ans en 1979 et quand 15 ans plus tard il écrit cette chanson, il veut se remémorer avec nostalgie cette période particulière où l'on quitte l'enfance pour entrer parfois avec fracas dans la préadolescence. On écoute maintenant Blondie, Heart of Glass, c'était en 1979.
Bye.
C'était Blondie avec Heart of Glass. C'était en 1979 et c'est sur Europe 1.
Europe 1, les millésimes.
Elena Noguera.
Comme chaque jour, on va terminer notre millésime du jour par un verre de musique. En 1979, la mode disco bat encore son plein, plus que jamais même. Parmi les incontournables de l'année, on a les gens du village. On a aussi Born to be Alive. Les droits d'auteur de cette chanson rapporteraient encore plusieurs centaines d'euros par jour à Patrick Hernandez, qui a réussi l'un des coups du siècle avec cette chanson. Autre disco-tube de 1979, c'est ça. La disco est omniprésente en 1979. Trop ? Pour certains, oui. Cette année-là, des voix anti-disco s'élèvent. Elles viennent notamment des fans de rock qui, en 1979, préfèrent écouter The Clash. Mais la contestation vient aussi de fans du hip-hop qui émergent à peine. Eux préfèrent écouter Sugar Hill Gang avec Rapper's Delight, premier grand tube rap de l'histoire, sorti en septembre 1979.
My friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Or to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie. Let's rock. You don't stop. Rock the rhythm that'll make your body rock.
Durant l'été 1979, le 12 juillet précisément, le stade de baseball de Comiskey Park de Chicago va être le théâtre de la Disco Demolition Night, un genre de grand messe anti-disco annoncé à grands coups de pompe dans les radios locales. Entre les deux matchs qui sont prévus ce soir-là, les spectateurs ont été appelés à jeter un album de disco leur appartenant. Ces disques ont ensuite été détruits à l'aide d'explosifs. Non mais c'est étonnant, non ? Cet été-là, le t-shirt à la mode est un t-shirt sur lequel est écrit « Disco sucks ». Le disco, ça pue. Il y aura d'autres événements de ce genre qui marqueront le début de la fin du disco. À Portland, par exemple, un DJ aurait détruit un tas de disques vinyles à coups de tronçonneuse. C'est fou, non ? La violence, jusque dans les notes de musique. Mais l'humain est ma boule. Bon, désolé si ça a fâché les Américains, mais en France, durant l'été 79, il y avait encore pas mal de tubes disco. On écoutait quoi, d'ailleurs, durant l'été 79 ? Eh bien, on écoutait ça. Honesty.
You can ring my bell. You can ring my bell.
avez reconnu ou pas Donna Summer, Hot Stuff, Anita Ward, Ring My Bell, Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland et Billy Joel, Honesty. L'été 79 est aussi l'été de Breakfast des Supertramp. L'album du même nom, Breakfast in America, sorti en mars 79, s'est vendu à 4 millions d'exemplaires en France. C'est l'un des albums les plus vendus au monde, l'un des meilleurs aussi. Roger Hodgson. J'ai du mal avec l'anglais. C'est la personne qui est au chant et au piano et aussi à la guitare. Il y a Rick Davies et John Halliwell au chœur. Dougie Thompson à la basse. Si vous étiez né en 1979, ce morceau « Breakfast in America » a très certainement fait partie de la bande originale de votre vie. Breakfast in America, l'un des nombreux tubes de l'album du même nom de Supertramp.
Elena Noguera.
Bientôt 16h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël se préparent pour me succéder avec Historiquement Vôtre. Nous, on se retrouve demain à la même heure pour une année qui se lit dans les deux sens. Une année de bruit et d'odeur. On croisera entre autres Henri Lecomte, Simone Weber et des voleurs de tableaux. Allez, à demain les petits choux.